France Culture.
Bonjour le Book Club. Jacques Roubaud est un auteur très important pour moi que je lis depuis des années. Il me semble que c'est une poésie qui n'exclut pas du tout le moindre ou le familier, mais qui au contraire s'y arrête et met la langue au travail, à son chevet.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
J.R. était chauve, mais il avait des cheveux et sur le nez, des poils qui lui servaient de radar à gâteau. La haute idée que J.R. se faisait de la poésie n'avait pas grand-chose à voir avec les couchers de soleil, à la rigueur avec les levées, ni même avec la littérature, celle-ci étant largement débordée par celle-là. J.R. aima follement les bibliothèques. J.R. avait peur d'oublier. Il appelait cela la démémoire. « Ma mémoire n'est plus qu'un souvenir », disait-il parfois en citant Pierre Luçon. C'était majoritairement faux. J.R. était trop fort pour nous. J.R. pour Jacques Roubaud, à qui nous consacrons notre book club aujourd'hui. Il est mort à 92 ans le 5 décembre 2024 et je viens de lire quelques lignes, quelques phrases de la tribune que Lou Lipo rédigeait pour son hommage. Vers 15h50, nous prendrons comme chaque jeudi des nouvelles du livre en dehors de nos frontières avec les correspondants de la rédaction internationale de Radio France. Et puis, nous finirons en chanson, en musique, avec le grand jeu des pages musicales. Nous sommes ensemble pour une heure, arpenter l'œuvre de Jacques Roubaud. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Jacques Jouet.
Bonjour.
On peut vous présenter comme écrivain tout-terrain, mais aussi comme membre de Lou Lipo depuis 1983. On peut dire aussi que vous avez signé avec Jacques Roubaud, co-signé à Lorient, c'était en 2010, une géographie imaginaire de la ville après l'avoir sillonnée. Et vos livres sont principalement édités chez POL, mais on n'a pas tout dit quand on dit ça. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là pour évoquer Jacques Roubaud et son œuvre. Bonjour Jean-François Puff.
Bonjour.
Vous êtes poète, professeur des universités en littérature française, dans l'ordre, 20e et 21e siècle. Spécialiste de poésie moderne et contemporaine, et en 2004, vous avez soutenu une thèse qui reliait, et ça fait plus de 20 ans maintenant,
ça commence à faire longtemps,
qui reliait l'œuvre de Jacques Roubaud et la lyrique médiévale. C'est un des chemins qu'on a choisi pour arpenter l'œuvre de Jacques Roubaud, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. C'est un hommage qui sera forcément trop court, c'est pour ça que je renvoie immédiatement nos auditrices et nos auditeurs aux archives radio qui existent sur France Culture et ailleurs, mais beaucoup sur France Culture, et qui à la fois le font entendre des commentaires et des dialogues autour de son œuvre. Peut-être on peut commencer par quelques éléments généraux, éventuellement des éléments biographique. Jacques Jouet, est-ce que vous voulez vous coller à cette double tâche pour commencer?
Alors, biographique, je ne sais pas, mais Roubaud, vous savez, Jacques Roubaud était l'image de la poésie. Le cœur de sa vie, c'est la poésie. Avec une idée très, très, très haute qui se faisait de la chose. Puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure dans le petit texte, là, il disait que la poésie ne fait pas partie de la littérature. La poésie, c'est la poésie, et c'est un phénomène totalement autonome. Donc, c'est déjà une sorte de déclaration assez originale, finalement. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais étudiant, ça m'a fait quelque chose d'assez étrange. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et le fait d'avoir côtoyé Jacques Roubaud pendant pas loin de 40 ans, très souvent, j'étais obligé de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Pas seulement à propos de la littérature qui ne comprendrait pas la poésie ou de la poésie qui ne serait
voilà,
pas la littérature.
Voilà, et alors, une petite chose biographique, c'est que quand on posait une question à Jacques Roubaud, il ne répondait jamais.
J'ai eu cette expérience-là avec lui en entretien, en effet. Il ne répondait peut-être jamais, mais il répondait quand même, d'une certaine manière, non?
Il vous donnait peut-être des pistes.
Des petits indices.
C'était à vous de vous débrouiller quand même, hein, pour faire le chemin, ce qui est finalement pas si mal que ça. Donc la poésie, voilà, la poésie au cœur de sa vie, au cœur de son activité, au cœur de sa pratique, au cœur de sa réflexion.
Je glisse pour une piste biographique, même si là encore c'est vraiment un tout petit caillou, puisqu'il aime les indices, et que d'ailleurs l'idée de recomposer linéairement ou chronologiquement une vie ou une biographie peut-être ne ferait pas sens si on parle de Jacques Roubaud. Néanmoins qu'il naît entre les deux guerres, et peut-être qu'on y reviendra quand on parlera de son rapport à la ville et particulièrement à la ville de Paris, ça a son importance. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme date de sa vie qui aurait son importance pour des lectrices et lecteurs qui voudraient comme ça fréquenter l'œuvre de Jacques Roubaud?
Si vous parlez de la naissance, on peut dire à ce moment-là, famille de... famille de Provençaux actifs dans la Résistance, ce qui est un élément biographique très important pour la suite de Jacques Roubaud.
Pour quelle raison ?
Eh bien, parce qu'il avait, il est né en 1932, n'est-ce pas ?
1932.
Jean-François, oui. Il est né en 32, donc en 42, il avait 10 ans. Voilà.
Mais vous soulignez la Résistance, c'est-à-dire qu'avoir 10 ans
oui.
En 42, en effet, oui. Ben c'est spécifique quand on a une famille engagée dans la Résistance.
Voilà. Ouais. Donc il y a le père et la mère, et puis toute la famille qui ont une histoire avec la Résistance, qui est très important, et puis la figure de Winston Churchill, qui pour Jacques Roubaud était aussi très importante.
Ce qui fait un signe vers l'anglais.
Qui fait un signe vers l'anglais.
Pourquoi est-ce que ça aussi, c'est une polarité intéressante?
La maman de Jacques Roubaud était professeur d'anglais, mm-hmm. son papa était professeur de philosophie.
Mm. Donc une famille intellectuelle, on peut dire.
Une famille intellectuelle, voilà. Bien sûr, mais militante aussi, active. Voilà.
Souvent, on commence le book club par poser des questions de lecture. C'était quoi comme lecteur, Jacques Roubaud?
Alors, il a lu énormément de romans d'aventure lorsqu'il était enfant. C'était un grand lecteur. La lecture fait partie de ses trois passions. Hein, Dans la boucle, qui est un livre qui appartient au cycle Le Grand Incendie de Londres. Jacques Roubaud revient sur un certain nombre d'aspects de son caractère, notamment ces trois passions fondamentales, originelles, la lecture, les nombres et la poésie. Donc déjà, d'ailleurs, il y a distinction entre la lecture d'un côté et les nombres et la poésie de l'autre.
Et vous dites les nombres plutôt que la mathématique.
Alors c'est d'abord les nombres.
C'est d'abord les nombres.
Et donc, d'un côté, il y a la lecture de la fiction, lecture passionnée. Pour Jacques Roubaud, lire du roman, c'est lire de la fiction narrative, c'est fondamental.
Ce, depuis l'enfance ?
Oui, depuis l'enfance. Et alors, c'est pas un lecteur qui revient et qui analyse, c'est un lecteur qui enchaîne les romans. Et de l'autre côté, il y a la poésie. Alors, pourquoi n'appartient-elle pas à la littérature ? Je crois que pour Jacques Roubaud, la poésie, c'est d'abord une activité. C'est d'abord une activité qui se fait par apprendre des poèmes par cœur et se les remémorer, et composer dans sa tête. Et la poésie est une forme de vie, c'est-à-dire tel événement de la vie va faire surgir tel poème dans notre mémoire. Et c'est cette relation entre la poésie et la vie qui est fondamentale chez lui et qui fait que, pour lui, la poésie est dans la mémoire. Alors, il a toujours aimé les livres de poésie et les bibliothèques. Mais je crois que fondamentalement, la première chose, c'est que la poésie est une activité, un jeu de langage, hein, pour reprendre la terminologie de Wittgenstein, qui est son philosophe de chevet, l'entrelacement d'un jeu de langage et d'une forme de vie. Et ça, c'est au cœur du travail.
Et d'ailleurs, en aller-retour, et peut-être en dessinant comme ça dans les airs un 8 de l'infini, l'idée qu'une forme de vie va aussi donner forme au texte, etc., 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 et qu'il y a manière de composer sa vie comme on pourrait composer un poème, un texte en prose, ou un sonnet, ou que sais-je.
Tout à fait, et ça renvoie, on en parlait avec Jacques avant l'émission, ça renvoie à la question du projet. Qui est une question fondamentale dans l'œuvre de Jacques Roubaud, c'est quelqu'un qui a toujours pensé son activité d'écrivain sous l'aspect du projet. Alors pourquoi ? Parce qu'aussi, s'engager dans un projet, c'est donner forme à sa vie.
Et aussi, c'est décider de vivre. C'est-à-dire, j'ai l'impression aussi d'avoir lu sous la plume de Jacques Roubaud que s'engager dans un projet, et on va en dire quelques mots, mais on a décidé de peut-être volontairement ne pas rentrer dans ce projet-là aujourd'hui, je veux dire à grande pompe parce que ce serait trop compliqué, mais on va quand même en dire quelques mots. J'ai l'impression d'avoir lu sous sa plume que c'était une décision vitale, que de programmer un projet littéraire, c'est aussi programmer de vivre, Jacques Jouet.
Oui, absolument. Il y a une formule qui est de lui, l'alternative à la disparition volontaire.
C'est ça.
Alternative à la disparition volontaire, ce qui est quand même une formule extrêmement forte.
C'est la première page du Grand Incendie de Londres, non ?
Oui.
Ouais.
Et alors, quand il met en avant ce projet, il y a un livre qui a été réédité aux éditions Nous il n'y a pas longtemps, Description du projet, qu'il faut lire absolument, parce que c'est un projet colossal. Il dit lui-même que le projet n'est pas raisonnable dans l'étendue de son ambition. Mais que aussi c'est un projet qui doit embaucher des tiers, c'est-à-dire que c'est pas conçu comme un projet strictement individuel, mais un projet qui, à terme, doit devenir collectif. Mmh. Ça, c'est aussi un élément que je crois qu'il faut souligner.
Peut-être que c'est l'heure de dire aussi son lien avec l'Oulipo, c'est-à-dire s'il faut embaucher des tiers pour un grand projet littéraire, on peut dire en quoi est-ce que son rattachement à l'Oulipo fait aussi de son activité poétique ou d'écriture quelque chose qui a à voir avec le collectif.
Mais quand il pense collectif, il n'y a pas que l'Oulipo, il y a des revues, à l'époque il y avait la revue Change, la revue Action Poétique. Après la revue Poésie, l'Oulipo en même temps, le centre de poétique comparée dans lequel il faisait un séminaire. Bon, vous voyez, il y a
l'Oulipo est l'un du poète des solitaire, quoi.
Oui. Et l'Oulipo n'est que l'un des terrains sur lesquels il voulait travailler.
Vous le rencontrez quand et comment ?
Alors moi, je l'ai rencontré. J'étais étudiant à Vincennes en 1970 dans le cours de Michel Deguy. Un jour, Michel Deguy nous dit, j'ai invité Jacques Roubaud qui vient de publier Signe d'appartenance, enfin, qui quelques années avant avait publié Signe d'appartenance. Et puis, Jacques Roubaud est arrivé, c'est comme ça que j'ai... Moi, je l'ai rencontré, lui, il ne m'a pas rencontré à ce moment-là, parce que je n'étais qu'un petit étudiant dans mon coin. Mais alors là, moi, ça a été une révélation, oui.
Pourquoi ?
Ben, parce que j'ai lu à ce moment-là Signe d'appartenance. Moi, j'étais un lecteur de Queneau. Je connaissais pas l'existence de l'Oulipo. Je n'étais pas un lecteur de Pérec. Et tout d'un coup, dans la suite de Queneau, je découvre Roubaud et qui nous fait, alors, qui arrive comme une espèce de bulldozer et qui arrive avec une pratique sur l'Alexandrin, sur le sonnet, sur le Graal, sur la poésie japonaise, sur la poésie américaine, sur les troubadours, tout ça arrive en masse sur un étudiant qui a 20 ans, enfin oui.
Surtout que moi, je suis d'une génération ultérieure, mais les références de Jacques Roubaud, ses références poétiques, philosophiques et son lien à la mathématique, ça tranche complètement avec la culture de la plupart des poètes de cette époque, qui sont globalement liés à la philosophie allemande, le romantisme et ses suites, donc Hölderlin, ensuite René Char et Heidegger, il y a tout ce moment-là de la poésie française, puis il y a la modernité négative avec ce thème de l'effacement radical du sujet de l'écriture, et arrive Jacques Roubaud avec ce dont Jacques Jouet vient de parler, c'est-à-dire la lecture des troubadours, la lecture du sonnet à la Renaissance.
Ça multiplie les pistes,
oui. Et c'est surtout un monde de poésie totalement singulier. Dès le départ, Jacques Roubaud, c'est quand même un grand singulier.
Mais aussi très hétérogène.
Oui, mais il va réussir à lier tout ça. Mmh. Il va réussir à relier, c'est ça qui est très très fort dans son travail de poète, c'est la manière dont il arrive par une lecture et par un travail d'élaboration théorique à relier à ce qu'il appelle la forme poésie, la poésie des troubadours, mais aussi la poésie japonaise classique et d'autres traditions, pour à partir de là composer lui-même. Et aussi cette relation à la poésie forme de vie, c'est pas si évident dans cette époque-là, des années 70, 80. Hein, c'est les moments quand même où il y a une attaque très très forte portée contre la pratique de la poésie dans ses formes traditionnelles. Mmh. Et Jacques Roubaud réussit, je pense que je parle un peu sous le contrôle de Jacques Jouet, à échapper il réussit à être lu en quelque sorte dans les deux camps, c'est-à-dire à la fois par ceux qui en tiennent pour la poésie lyrique et un certain rapport maintenu à la tradition poétique, et aussi pour ceux qui sont du côté de l'expérimentation formelle.
Mais peut-être parce
qu'il arrive à être lu par les deux. Quoi.
Mais peut-être parce que sa nécessité est impérieuse, non ? J'ai l'impression, puisque vous dites il est singulier, c'est-à-dire peut-être parce que son projet est si fort d'une certaine manière, Jacques Jouet.
Oui. Mais il a surtout la force de ne pas s'affirmer moderne ou avant-gardiste à ce moment-là, ce qui était pas rien d'oser cela.
De ne pas le faire.
Et en disant, moi je vais regarder les troubadours et j'ai besoin de cet archaïsme-là. Il prononce le mot archaïsme. J'ai besoin de cet archaïsme-là pour inventer. C'est-à-dire, c'est pas en affirmant je suis moderne. Vous voyez comme je suis moderne.
Je ne fais pas table rase, au contraire.
Non, au contraire, je fais table pleine. Mais il va chercher des traditions qui sont pas à ce moment-là, qui sont pas extrêmement connues ou qui qui sont connus bien sûr de quelques personnes, mais pas massivement.
On va revenir à cet imaginaire du troubadour, à la tradition et au lyrisme médiéval qui existe. Mais la première piste qu'on choisit de suivre avec vous deux pour traverser l'œuvre de Jacques Roubaud, c'est précisément une piste. C'est précisément sa manière de traverser, sa manière d'arpenter, sa manière d'être intéressé par la marche. Vous parliez de la forme de vie qui donne forme au poème. On va l'écouter dans une archive diffusée sur France Culture en 2008.
Si je décide, je m'en vais, je pars de chez moi, je vais à Gallieni ou je vais rue Georges Perec ou je vais à Auchan, comme ça, ben, je vais passer toujours par le même endroit. Donc il faut que je fasse, que je consulte un peu le plan pour me donner deux, trois repères, deux, trois stations, comme disaient les peintres japonais, les stations du Mont Fuji, 36 stations. On passe tel et tel et tel endroit. Par exemple, ça peut être, pendant quelques temps, j'ai fait des parcours, et c'est des parcours exploratoires, où je cherchais, en tenant compte un petit peu de l'histoire de Paris pendant l'occupation, essayer de retrouver les plaques qui indiquent où quelqu'un qui était un résistant, loin de ceux qui sont arrivés avec l'armée française en 1944, ont été tués. Il y a des plaques là, avec parfois des fleurs. Donc je faisais des parcours comme ça. Des relevés, ben ça, on ne sait pas, ça peut. Comme je me dis, ça je le note. Ça peut toujours servir, je me dis.
L'heure du réveil des habitants du passage de la Reine de Hongrie. L'heure de l'ouverture du café de la rue du Moulin de la Pointe. L'heure du ramassage des poubelles de la rue du Sommet des Alpes. L'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du Roi de Sicile. L'heure de l'extinction des réverbères de la rue du Pot de Fer. L'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du Faubourg du Temple. L'heure du lever des enfants de la rue de la Poterne des Peupliers. L'heure de l'ouverture de la charcuterie de la rue du Moulin des Prés. L'heure de la promenade des chiens de l'avenue de la Porte de Pantin. L'heure de l'ouverture de la maternelle de la rue de la Pointe d'Ivry. L'heure du nettoyage des caniveaux de la rue des Nonains d'hier. L'heure de l'ouverture du garage de la rue du Val-de-Grâce. L'heure de la désinvolture des chats de la rue du Père Téliard de Chardin. L'heure de l'ouverture de l'auto-école du boulevard des Filles du Calvaire. L'heure du roucoulement des tourterelles de la rue du Moulin de la Vierge. L'heure de l'ouverture de la bonneterie de la galerie des marchands de la gare Saint-Lazare. L'heure de l'invasion des voitures de la boulangerie.
Et ça continue comme ça pendant tout un poème qui s'appelle « L'heure » et qui fait partie des 150 poèmes 1991-1998 que compose « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ». Juste avant, c'était la voix de Jacques Roubaud expliquant voilà, sa manière d'arpenter cette ville. Et je me souviens aussi d'une archive d'un entretien avec Emmanuel Laurentin sur Culture Toujours où il dit « J'arpente aussi parce que j'ai un contentieux avec cette ville ». J'ai un truc à régler. Et c'est beau, parce qu'on sent que c'est à la fois joyeux, il y a du mouvement, mais il y a aussi, comme il le dit, quoi, il se coltine Paris quand même.
Là, peut-être qu'on peut revenir à la boucle, le deuxième volume du cycle Le Grand Incendie de Londres, dont on parlait tout à l'heure. La boucle, c'est autre chose qu'un récit autobiographique, mais il y a quand même un récit autobiographique qui s'y trame, et c'est les images mémoires de l'enfance provençale. Et c'est aussi un grand livre sur la guerre, je viens de le relire et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est aussi un très grand livre sur la guerre. Or, le père de Jacques, résistant, va rejoindre Paris en 1944, il est appelé à Paris pour occuper une tâche à l'Assemblée nationale consultative réunie par le général de Gaulle en 1944, et donc toute la famille va déménager, et c'est une rupture violente pour Jacques Roubaud qui raconte une enfance pieds nus dans la Provence, une ville désertée parce que c'est la guerre, il n'y a pas d'automobile, et d'un coup c'est Paris, et il aura toujours détester Paris, sa ville, c'est Londres.
Mais détester Paris, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut régler la question aussi simplement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on
sans
peut
doute
détester
pas, mais parce que la forme d'une... en tout cas.
Il parce aimait... qu'il y a quand même quelque chose aussi du mouvement vivant, c'est-à-dire quand il raconte, peut-être on peut parler de ces fameux procédés où il décide, on parle là de programmes poétiques, mais il y a aussi toutes les contraintes qu'il invente pour arpenter et écrire cette ville. S'il la détestait vraiment, ferait-il ça autant, Jacques Louis ?
Il affectait de détester Paris, comme il affectait de détester beaucoup de monde. Par exemple, il aime bien faire des choix, c'est-à-dire qu'il choisit Gertrude Stein contre Joyce. Il choisit, Churchill contre tout le monde, à ce moment-là. Voilà, c'est qu'il choisit contre Dante, il va choisir...
Qui ?
Il va choisir...
Les troubadours et Cavalcanti.
Cavalcanti. Vous voyez, ça, voilà.
Mais au moins, quand ça tranche, on avance. C'est pour ça que moi,
oui.
Ça marche aussi, il y a du mouvement, il y a quelque chose. C'est comme décider de partir de la rue d'Amsterdam où il habite pour rejoindre une porte. Bon, ça trace dans Paris, il y a quelque chose comme ça. Absolument. Tout en n'étant pas un bulldozer, puisque justement... Qu'est-ce que c'est que marcher ou arpenter la ville pour Jacques
Roubaud ? C'est un bulldozer un peu fin.
Ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'inverse du bulldozer quand même. Alors c'est quoi arpenter la ville, Jacques Jouet, pour Jacques Roubaud ?
Alors la marche, Jean-François parlait tout à l'heure de la composition en marchant, ça c'est ce que Roubaud a toujours fait. Tous les sonnets de Signes d'appartenance, son premier livre, sont composés mentalement, en marchant. Et quand le poème est composé dans la tête et il est en quelque sorte appris en même temps qu'il est composé, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à le recopier sur un bout de papier. Voyez. Donc la marche est très importante pour le rythme de la composition et pour le rythme du poème. Alors la marche, quand on habite en ville, on marche, forcément. Et puis, là, il y a quand même quelques sources. Évidemment, le livre de Raymond Queneau qui s'intitule « Courir les rues », qui est un livre de marcheur aussi dans Paris.
Et Roubaud dit « recourir les rues ».
Voilà, Roubaud a toujours dit « mon maître Raymond Queneau ». Donc l'un des éléments de la maîtrise de Raymond Queneau, c'est aussi la marche dans la ville. Donc voilà, Roubaud reprend ça, bien sûr.
On entendait aussi dans l'archive, c'est à la fois une observation du présent, de l'infraordinaire de Pérec, vraiment des détails. On entendait aussi dans la lecture d'Oriane Mignot...
C'est assez différent de Pérec, à mon avis. Hein.
Oui.
C'est pas moi, je ne parlerais pas volontiers d'infraordinaire dans l'approche de Roubaud.
Par exemple, là, le fait qu'on puisse attraper l'heure d'ouverture précise, du garage précis de telle rue, ce n'est pas tout à fait ça.
Non, c'est le terme précis. Alors oui, tout à fait, l'exactitude.
Oui. D'accord. Hein.
L'exactitude, Roubaud est né un 5 décembre, il est mort un 5 décembre.
Voilà, on rigole pas avec ça.
On rigole pas avec ça.
Ouais.
Donc là, l'exactitude, oui, ça, oui. Mais l'infraordinaire, c'est pas forcément son approche, je crois pas.
Pas le détail, par exemple.
Oui, pas forcément le détail.
Pourquoi ? Parce qu'il faut saisir vite.
Je dirais davantage la liste. Par exemple, dans le poème qui a été lu tout à l'heure, il y a si je travaille sur les noms de rues qui comportent un génitif à l'intérieur, ce qui est le cas là, à ce moment-là, il les faut toutes. Ça, oui, il faut pas qu'il y ait un élément qui échappe à la liste. Vous voyez,
Je mentionnais votre co-rédaction d'un livre autour de la ville de Lorient. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, Jacques Jouet ?
J'avais complètement oublié quand je vous ai entendu en parler tout à l'heure. Oui, j'ai complètement oublié ça. Effectivement, on s'était retrouvés tous les deux. Enfin, moi, j'étais en résidence à Lorient pendant peut-être, deux semaines, trois semaines. Et puis, Jacques Roubaud avait dû faire une semaine aussi, à peu près au même moment. Donc, on avait décidé de rassembler les textes qu'on avait composés. Oui.
Et
oh ben là, pour moi, le modèle, c'était alors là, oui, à la fois le Courir les rues de Queneau et puis le livre dont vous parliez de Jacques Roubaud, bien sûr, qui était déjà paru à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus de La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ? Déjà, est-ce que c'est pertinent d'en faire un livre marquant et marqueur de l'œuvre de Jacques Roubaud, Jean-François Puf ?
Ce n'est pas mon livre préféré.
Oui, mais
moi, j'ai 31 au cube, qui est un livre des années 70,
qui est précédent, du coup.
Bien avant. C'est un livre qui, c'est du Jacques Roubaud. Il n'y a pas de mauvais livre de Jacques Roubaud. Hein. Là, moi, j'ai été assez, assez fétichiste et intransigeant sur mes choix. Mais là, maintenant que Jacques est mort, je reprends tout, j'aime tout. Mais c'est vrai que c'est pas un livre qui est central pour moi. Ça reste quand même, un très beau livre de poésie. Alors, il y a d'un coup aussi ce travail beaucoup plus intuitif de la forme dans ce livre. Hein. C'est quand même un livre en vers libre, on peut le dire. Hein. Alors que Jacques Roubaud a passer une bonne partie de son travail théorique à critiquer la pratique du vers libre pour, au contraire, concevoir des formes. La question de la marche et de l'arpentage, elle est là avant Paris, en fait. Hein, elle est là. Elle est aussi liée à d'autres pratiques comme celle de la nage. On le sait assez peu, mais Jacques Roubaud, c'était aussi un grand nageur. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, aimait partir au loin, en mer, jusqu'à presque disparaître. Et ensuite, il y avait une sorte de... Bon, sur le Jacques Roubaud mathématicien, une sorte de calcul de dérive. Et puis, quand il avait presque disparu, il y a peut-être quelque chose de très mélancolique, d'une tentation, il le dit, hein, je crois que c'est dans Le Grand Incendie de Londres, de se laisser couler, quoi. Mmh. Ah, il revient. Il revient, et par le calcul qu'il a accompli, le regard, qu'il a pu maîtriser son angle de dérive, il revient de là où il était parti. Donc oui, la question de l'arpentage, c'est quelque chose de très, très important chez Jacques, mais il y a aussi un arpentage plus libre, là sous les yeux, si je puis me permettre de dire
bien sûr.
Un petit peu. C'est un poème de 31 cubes que je vais certainement pas lire en entier.
C'est ce que j'allais dire, à la fois je vous permets, à la fois pas en entier.
Mais juste le début, c'est une promenade, on peut dire comme ça, hein. La menthe poussait doux, la Seine poussait doux, l'iris, la noisette, l'acacia, douces écailles, dents machinales, doux, tièdes. Je poussais un caillou du pied doucement avec ma sandale et c'était par un chemin dans trèfle, luzerne, un désert doux. Le chemin montait, le trèfle en contrebas. C'est un livre d'amour, c'est un poème d'amour, 31 au cube, et ça va finir que ce caillou, après un très très long poème, ça va être pousser et rouler vers toi. C'est aussi Jacques Roubaud.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le conte. Le conte compte pour vous. Qui ça pour vous? Ceux pour qui compte le conte. Si le conte compte pour vous, c'est que c'est vous. Le conte compte pour ceux qui ont plus ou moins de 20 ans, plus ou moins de 60, qui ont 17 ans ou plus, 31 ans ou moins, 41 ans ou plus, 14 ans ou moins. C'est toujours le même conte. Mais ce ne sont pas les mêmes gens. Ce conte est pour les sauterelles. Ce conte est pour une sauterelle particulière, particulièrement. Ceux pour qui compte le conte, s'ils écoutent le conte, qu'ils en soient remerciés. Les remerciements sont dans le conte. Pour les entendre, il faut l'écouter. Il y eut un temps où le conte était partout. Tous y avaient accès. Où est ce temps? Maintenant, celles, ceux, pour qui le conte est le conte, sont dans le conte. Mais pour qui est le conte ? Un matin. C'était un beau matin de mai et les oiseaux chantaient délicieusement dans quatre arbres. Les uns chantaient en celte, en irlandais, en scottish gaélique, en gallois, cornique ou breton, les autres en langue romane, en oïl, en oc, en si, en catalan, espagnol ou galégo-portugais. Aucun ne chantait en chien. Dans le pin, un écureuil lisait le Times. De temps en temps, il prenait deux noisettes dans sa bibliothèque, tout en parcourant la rubrique des décès et fiançailles située en première page du journal. Il grignotait l'une et lançait l'autre dans la rivière, d'où un saumon bondissait, afin de l'attraper avant qu'elle ne touche l'eau. C'était un moment d'une douceur inexprimable. La princesse réfléchit. La princesse réfléchissait. Les érelles, se disait-elle, sont mûres au bord de la rivière. De l'autre côté de la rivière, entre la rivière et le chemin, les embrunes sont mûres également. De l'autre côté du chemin, il y a la forêt. Dans la forêt, les myrtilles sont mûres. Pour traverser la rivière, il y a le canot à canard de l'oncle Babylas. Pour traverser le chemin, il y a son feu rouge à quatre couleurs et ses clous. Pourquoi n'irions-nous pas cueillir des érelles, des embrunes et des myrtilles pour la compote de Tante Ingrid ? Moi, je crois que je pourrais lire ça à voix haute pendant de longues minutes parce que c'est vraiment très drôle et très plaisant en bouche. La princesse Hopi ou le conte du Labrador, c'est pour introduire le deuxième temps de cette traversée trop rapide de l'œuvre de Jacques Roubaud et cette lyrique médiévale, cet imaginaire médiéval. Qu'est-ce qu'on peut en dire de manière générale ? On en a dit un tout petit peu déjà Jean-François Puff, mais en quoi est-ce que la poésie ou pourquoi la poésie de Jacques Roubaud travaille à la fois cet imaginaire mais aussi cette tradition ?
C'est un sujet assez immense.
Vous y avez comme consacré une thèse ?
Oui, alors je vais essayer de dire l'essentiel le plus rapidement, le plus synthétiquement possible. Bon, d'abord, il y a quelque chose d'une mémoire de la langue, d'une langue qui est le provençal que Jacques Roubaud a pu entendre dans son enfance. Il y a quelque chose qui le relie à ses commencements. D'un point de vue purement sensible, lorsqu'il découvre la poésie des troubadours, il y a quelques vers des troubadours, notamment « Resplende la flore inverse », un vers de Rimbaud d'Orange, qui le renvoie d'emblée à une image d'enfance fondatrice qui est « La fleur de gel ». Donc il y a un rapport entre... La poésie des troubadours lui rend une enfance, lui rend un passé, à la fois réel et fantasmé. C'est une poésie lyrique amoureuse, donc Jacques Roubaud, c'est quand même un grand poète de l'amour, il faut quand même le rappeler, le dire, on va parler de quelque chose noir, c'est déjà là dans d'autres livres, notamment 31 au cube, mais c'est central. Et il y a la dimension formelle. Les troubadours déploient de manière inégalée la pratique de la rime. C'est des poètes de la rime qui inventent des formules de rime d'une complexité et d'un raffinement extraordinaire. Et ça, ça va fasciner Jacques Roubaud. Ça va le fasciner, mais il n'imitera jamais les troubadours. Il va jamais écrire un poème, je parle sous le contrôle de Jacques Jouet, qui sera l'imitation d'une cansu des troubadours. Il va se saisir des principes formels de la cansu des troubadours et du sens formel de la poésie des troubadours, c'est-à-dire se livrer à l'amour, mais essayer de faire en sorte que cet abandon à l'amour ne bascule pas dans la mélancolie. C'est un peu ça le grand enjeu éthique de la poésie des troubadours, c'est accueillir en soi l'intensité de amours sans basculer dans la folie d'amour, la mélancolie. Bon, et ça, c'est par un travail de la forme qui tient l'élan, l'affect amoureux qu'il a, qui lui permet d'avoir une forme et donc de pas basculer dans l'informe, que ça se fait. Donc c'est cette relation entre une pensée de la forme, un sens formel qui va inspirer Jacques Roubaud et il va tenter et il va réussir à lui donner sa propre forme. À partir de certains principes formels qu'il a découverts chez les troubadours, il va inventer des formes.
Il y a aussi, j'espère, ce qu'on entendait dans La princesse Hopi ou le conte du Labrador, quelque chose, peut-être que c'est propre à ce texte-là, mais où c'est souriant, où il y a de l'humour, mais aussi où il y a une réflexion. Par exemple, quand la princesse réfléchit, c'est presque un problème mathématique dans les livres de mathématiques, un problème joyeux. Peut-être qu'on n'a pas encore dit suffisamment de choses sur ces deux aspects-là, Jacques Jouet.
Il n'y a pas de, pour chez Roubaud, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que j'ai tiqué tout à l'heure quand Jean-François Puff dit ne retenez pas la forme d'une ville comme ses livres préférés. Pour Roubaud, je crois, enfin dans ce que j'ai observé, tout est égal. C'est-à-dire que tout est important. C'est pas plus profond parce que on est triste, c'est pas moins profond parce qu'il y a du rire. Tout ça est possible en même temps, et il y a pas de, je crois pas qu'il y ait pour lui de hiérarchie. Ça c'est une chose pour moi qui m'a beaucoup frappé, beaucoup été utile aussi.
Pourquoi ça a quoi comme implication?
Ben ça, comme implication qu'on n'est pas. Comment dire, on n'est pas obligé d'être profond, on n'est pas obligé d'être malheureux pour être profond. On peut aussi être très profond en étant gay et en faisant des choses drôles dans l'écriture. Bon, Roubaud n'avait pas peur de ça. Il n'avait pas peur d'aller du côté du rire. Il a fait des poèmes pour les enfants qui sont très, à la fois très simples et magnifiques. Et je crois que pour lui, l'importance était égale. Alors, par exemple, dans le livre, si je reviens au livre sur Paris, moi je ne crois pas du tout, Jean-François, que ce soit du vers libre. Tout le vers libre chez Roubaud est toujours sous contrainte. Le poème qu'on a entendu tout à l'heure, évidemment, le vers n'est pas compté métriquement, mais il y a un principe de contrainte qui est, et dans tous les poèmes de ce livre, c'est le cas. Voilà. Alors après, le conte, quand Roubaud travaille sur les troubadours, il travaille en même temps sur les textes en prose du Graal. Et pour lui, ça va devenir, aussi un élément de sa réflexion très important. Il y a la poésie, mais il y a aussi en face la prose. Non pas le roman, mais la prose. Pour moi, c'est très important de distinguer.
Et alors, qu'est-ce qu'il en dit? Parce qu'il en fait trois territoires presque différents.
Alors, pour lui, le territoire de la prose, alors il s'oppose d'une certaine façon à la poésie. Et alors là, quand il fait le Grand incendie de Londres, qui est son grand livre de prose, eh bien, c'est intéressant de voir que ça part de l'échec d'un roman.
D'ailleurs, il s'en étonne, je crois, dans les premiers paragraphes du Grand. Il dit, j'écris, je commence.
son ambition est de faire un roman, un très grand roman, et en fait, il dit que non. Il n'y arrive pas et il fait autre chose. Il fait une prose de mémoire.
C'est ça, c'est la première phrase. Avertissement, en traçant aujourd'hui sur le papier la première ligne de ces lignes de prose, je les imagine nombreuses, je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma 30e année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de 20 ans le projet de mon existence. Ouais. Et donc ce projet Incendie de Londres, pardon, je vous ai coupé, oui. J'attrapais juste ce mot prose.
Moi, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai lu deux fois. Je l'ai lu quand c'est paru progressivement dans les volumes, et puis je l'ai relu après d'une traite. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est un contre-Proust.
C'est-à-dire
que... C'est-à-dire qu'il... À la recherche du temps perdu... Et Roubaud, évidemment, l'a lu. Le Grand incendie de Londres, pour moi, est l'anti-Proust. C'est-à-dire qu'il y a chez Proust, selon Roubaud, une sorte de confiance, un peu d'irénisme dans la mémoire. C'est « je vais retrouver le temps perdu ». Et Roubaud passe son temps, lui qui est un homme de mémoire, passe son temps à douter de la mémoire.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est un homme de mémoire qui doute en même temps de la mémoire? Je citais ce texte en hommage, signé par Loulipo, en hommage à Jacques Roubaud, publié en décembre 2024, au moment de sa mort, enfin quelques jours après. Il appelait ça la démémoire. « Ma mémoire n'est plus qu'un souvenir », disait-il parfois, en citant Pierre Luçon.
Oui. C'était un champion de la mémoire, puisqu'il avait il avait dans sa mémoire des quantités astronomiques de vers de la poésie. de toutes les langues.
Poème par cœur des autres, et aussi, on l'a bien entendu, poème par cœur par lui.
La dernière fois que j'ai vu Jacques Roubaud, au mois de juin dernier, il m'a cité un poème de Brecht en allemand, de mémoire.
Oui, pourquoi pas.
En disant, je ne m'en souviens plus, et il s'en souvenait parfaitement d'ailleurs. Et donc oui, la mémoire pour lui est une chose essentielle, et essentielle dans la réflexion de la poésie, c'est-à-dire la poésie est mémoire de la langue, dit-il. Mais si on fait de l'autobiographie, ce qu'il cherche à faire d'une certaine façon dans Le Grand Incendie de Londres, eh bien, à tous les chapitres, il y a toujours un doute sur la mémoire, toujours un... Eh bien non, on ne revient pas en arrière.
Mais en tant qu'elle est faillible ou en tant qu'elle ne nous permettra jamais d'aller agripper ou récupérer ou retrouver le temps perdu ?
On ne retrouve pas le temps perdu.
Jean-François Puff.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jacques Jouet, mais je crois qu'il y a une nuance à faire peut-être dans les usages de la mémoire. C'est-à-dire que ce que Jacques Roubaud considère comme... problématique, c'est quand l'écrivain dit « à 7 ans, je pensais que... » C'est-à-dire une espèce de reconstitution de ses intentions, de sa vie passée, des relations entre les gens, etc. En revanche, les images qu'on a dans la mémoire, elles ont une puissance de présentation de l'ordre de la quasi-certitude. Elles sont là. Et donc, dans la boucle, ce que fait Jacques Roubaud, c'est...
La boucle, c'est donc ce fameux texte dont vous parlez plusieurs fois, à dimension biographique.
Voilà, mais qui fait partie du Grand Incendie de Londres. On a une séquence d'images mémoire, alors elles sont pas toutes seules, elles devaient être seules au départ, et là, en revanche, elles sont enchâssées dans un récit qui a une dimension malgré tout autobiographique, mais ce récit, bon, il est sous tension, il peut y avoir du doute, mais en revanche, les images mémoire, elles sont là. En revanche, ce que fait Jacques Roubaud, dit-il, et je crois qu'il n'est pas le seul à avoir fait cette expérience, c'est que en posant ces images mémoire dans le travail de la prose, il les brûle, il les efface de sa mémoire. Et il y a une situation duale chez Jacques Roubaud.
Il les dépose, il s'en débarrasse.
Il s'en débarrasse pas. Le fait de les écrire, donc de les décrire, donc d'en fixer des contours évanescents. On sait tous qu'une image mémoire, c'est quelque chose d'assez instable. Dès qu'on essaie de la saisir, elle s'en va.
Elle est parfois fausse, elle est parfois composée de quatre images qu'on appelle
les souvenirs à l'écran. Il l'analyse quand même ça, parce que cette image mémoire-là, quand il est sûr, elle est sans doute superposition de plusieurs images. Le fait de le poser en prose et de les décrire, c'est une manière de brûler sa propre mémoire. Donc c'est encore quelque chose d'assez mélancolique dans la boucle. En revanche, ces images mémoire, elles sont dans Signe d'appartenance, en fait. Et là, elles sont en quelque sorte préservées dans le vers. Il y a une situation, disons que là où Mallarmé avait dit « il n'y a pas de prose », en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a vers dès que rythme et dès que s'accentue la diction. Jacques Roubaud, et Jacques en a dit un mot, il restitue un partage entre la prose d'un côté et le vers au sens large, disons le travail rythmique de l'autre. En quelque sorte, la prose, elle est la non-poésie. Elle brûle la mémoire, là où la poésie préserve la mémoire et va affecter notre mémoire à la lecture.
Est-ce qu'il y a, Jean-François Puff, des images mémoire, pour reprendre votre mot, dans Quelque chose noir, qui est le troisième livre qu'on choisit pour traverser l'œuvre de Jacques Roubaud?
Justement, non, ou très très peu. Il y en a quelques-unes. Il y a une section où il revient sur les années heureuses de la vie avec Alix.
Alix Cléo-Roubaud, donc photographe.
Mais justement, le modèle, il est photographique dans ce livre. Et la photographie, c'est... Alors, même si Alix a essayé de travailler l'instabilité de l'image photographique en travaillant en série, donc en faisant bouger l'image par le sérialisme, malgré tout, la photo, c'est une fixation de l'image.
On va écouter un tout petit extrait.
Méditation du 21 juillet 85. Je regardais ce visage qui avait été à moi, de la manière la plus extrême. Certains... En de semblables moments, on pensait invoquer le repos, ou la mère de la sérénité. Cela leur fut peut-être de quelque secours, pas moi. Ta jambe droite s'était relevée et écartée un peu, comme dans ta photographie titrée « La dernière chambre ». Mais ton ventre, cette fois, n'était pas dans l'ombre. Point vivant au plus noir. Pas un mannequin, mais une morte. Cette image se présente pour la millième fois, avec la même insistance. elle ne peut pas ne pas se répéter indéfiniment, avec la même avidité dans les détails. Je ne les vois pas s'atténuer. Le monde m'étouffera avant qu'elle ne s'efface. Je ne m'exerce à aucun souvenir. Je ne m'autorise aucune évocation. Il n'y a pas de lieu qui lui échappe. On ne peut pas me dire « Sa mort est à la fois l'instant qui précède et celui qui succède à ton regard. Tu ne le verras jamais. » On ne peut pas me dire « Il faut le taire. »
Un extrait de Quelque chose noir, poème paru en 1986 aux éditions Gallimard. Jacques Jouet, pour poursuivre ce qu'on disait avant du rapport de Jacques Roubaud à la mémoire, mais aussi le Jacques Roubaud amoureux dont on a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre-là, si beau ?
Ben c'est un livre de deuil tout à fait extraordinaire, évidemment. Quoi dire de plus ? Il y avait un autre deuil dans la vie de Jacques Roubaud, c'est le frère. Le frère qui s'est suicidé à l'âge de, enfin très jeune, à l'âge de 20 et quelques années, et dont Roubaud parle beaucoup. Quand il disait, on citait tout à l'heure l'alternative à la disparition volontaire. Bon, cette disparition volontaire, elle est au départ de la vie de Roubaud. Et puis, il y a cette deuxième disparition, alors non volontaire, d'Alix Cléo-Roubaud, bien sûr. Voilà, c'est un très beau livre de deuil.
Peut-être on peut dire comment il est composé, de quoi il est fait. Là, on a entendu un poème lu par Oriane Mignot. Bon, ça bouge, ce n'est pas uniforme comme livre, Jean-François Puff.
Là aussi, c'est une question compliquée. Là, j'ai sous les yeux 31 au cube. C'est un cube. Et l'analogie du cube, c'est la cambra, c'est la chambre des amants, où on peut jaosir avec la femme aimée. Et c'est un grand travail rythmique, ce livre. Quelque chose noir, c'est la négation du rythme. C'est-à-dire que l'entrelacement amoureux, il est plus possible. Donc il y a ce travail qu'on pourrait dire de prose, pour le dire un peu simplement, pour qu'on comprenne tous de quoi il est question. Quelque chose de l'ordre de la sourdine, on met la sourdine, en fait.
Il y a beaucoup de fois le mot rien.
Voilà, il y a ce... Et en fait, le modèle, il y a 9 phrases ou paragraphes par poème. Hein. C'est basé sur le chiffre 9, qui est le chiffre de Béatrice, de Dante. 9, c'est 3 fois 3, c'est un carré. Et le carré, c'est la photographie. Et c'est la surface. Donc d'un côté, on a l'amour vivant, la cambra, le jaosir, le rythme. Et de l'autre côté, on a le livre de deuil, la prose, la photographie, le carré. C'est ça aussi qui est toujours très troublant chez Jacques, c'est à la fois cette intensité de vivre les choses, de cette douleur qui est véritablement, ben voilà, qu'on peut pas révoquer en doute. Et en même temps, ça s'intègre dans une pensée de la poésie qui est la sienne.
Qui se construit,
mais qui se construit en accueillant à chaque fois l'événement, la chose, immaîtrisable en fait. Hein. Sur la question de Jacques, c'est toujours la question de comment on peut accueillir l'immaîtrisable. On sait qu'on va être dans l'immaîtrisable.
Mais en le maîtrisant ?
On veut essayer de le maîtriser, mais on sait qu'on le maîtrisera pas. Mais il y a toujours cette tentative.
Mais là, ce serait ça le lien au nombre, à la mathématique, à la contrainte, à la forme, quelque chose qui serait une possibilité de, pas seulement de jouer avec, mais de maîtriser ce qui échappe,
Jacques Jouet. Je pense que c'est ça, mais je ne pense pas.
Quand il parle de son projet, il dit quoi, comment, pourquoi. Alors quoi, c'est le terrain, poésie, langue, mémoire, rythme, ça c'est le quoi. Et puis le comment, c'est l'examen de tous les comment qui ont été possibles dans l'histoire de toutes les poésies, de toutes les langues, partout, dans tous les temps. Et après, il y a le pourquoi. Et que dit-il dans la description du projet ? Il dit « le pourquoi restera muet ». Quand même curieux. Le pourquoi restera muet. Alors que tous les commentateurs de la poésie adorent gloser sur le pourquoi. Et Roubaud ne glosse pas sur le pourquoi. Ça reste totalement...
Mais par quoi là aussi,
ça reste une énigme.
Mais c'est une énigme au sens presque par goût de la mathématique ou c'est de la pudeur ? Où c'est, puisque vous aviez dit que c'était quelqu'un qui faisait des choix tranchés et tranchants. Donc ça peut être aussi un très grand choix de taire le pourquoi.
Je crois que c'est un choix effectivement de mathématicien, c'est-à-dire que le pourquoi, on va pas pouvoir prouver grand-chose.
Ça ne sert à rien de remonter
on
trop
peut,
loin.
On peut dire des trucs, mais on ne va pas pouvoir prouver grand-chose pour étayer ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est une leçon qui est intéressante à entendre, je crois.
Mais parce qu'il y a pourtant, par exemple, là, tous les deux, en soulignant ces deux deuils importants, fondamentaux dans la vie de Jacques Roubaud et qui entrent dans sa poésie, mais en disant aussi qu'il est né entre les deux guerres, la résistance de sa famille, son arrivée à Paris. On dit quelques pourquoi quand même. On fait pourquoi. Nous, on peut, oui, d'accord. Nous, on peut, mais lui s'en gardera bien.
Ouais.
Mais est-ce que ça ne l'intéresse pas?
Moi, là, je ne suis pas d'accord avec Jacques Jouet, pour le coup.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Roubaud?
Je ne sais pas.
Okay.
Je ne sais pas, je suis un lecteur, comme
ouais.
un autre.
Alors, hein. allez-y en tant que lecteur.
Mais disons que dans La Fleur Inverse, il y a quand même
donc un autre livre.
Quelques raisons de composer de la poésie qui sont données. Évidemment, il ne va pas nous dire pourquoi, sous la forme d'un petit paragraphe maîtrisable comme ça. Mais c'est dans l'œuvre. Là, par exemple, j'ai 31 au cube sous les yeux.
Décidément.
Oui, voilà. Ben, je n'ai pas apporté tous les livres, hein, donc j'essaie
de... Non, mais allons-y avec celui qui est là.
Et au départ, bon, donc, ça commence par « Je détiens un million de syllabes comptées pour toi », etc. Donc il y a une dimension un peu métapoétique dans ce début. Pourquoi ces syllabes? Pourquoi ce chant? Et ça finit à la fin. Pourtant, j'ai répondu. La réponse est là, prise dans le mouvement d'ensemble, désordre clair derrière la voix battante. C'est-à-dire, la voix essaie d'organiser, la voix de poésie essaie de donner une forme, mais on sait que derrière.
Mais ça aussi, c'est une pensée mathématique d'une certaine manière, parce que en fait,
ou philosophique.
Mais la mathématique essaye d'organiser le chaos sans nier qu'il y a du chaos.
Je ne suis pas très mathématicien.
Et moi non plus.
Je me garderai d'avancer.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, tous les jeudis, c'est l'heure de Lecture sans frontières qui nous emmène aujourd'hui en Pologne avec vous, Adrien Sarla. Vous êtes le correspondant de Radio France. Bonjour Adrien.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un ouvrage censuré par le régime communiste polonais qui a dû attendre 40 ans pour enfin être publié pour la première fois le 18 octobre dernier, en 2024, 17 ans après la mort de son auteur, en 2007. C'est l'histoire hors du commun du sablier de Kapuche, Richard Kapuściński. Alors, avant de revenir sur ce livre, rappelez-nous qui est cet auteur dont j'écorche si bien le nom, Adrien.
Eh bien, si on devait résumer, on pourrait dire que c'est le journaliste polonais le plus connu au monde. Fils de résistant aux nazis d'abord, puis aux soviétiques ensuite, Richard Kapuściński est né en 1932 à Pinsk, dans l'actuelle Bélarus. Dans les années 50, il se lance dans le journalisme d'abord en Pologne, puis en Inde, avant de devenir le correspondant de l'agence de presse polonaise en Asie et en Amérique latine. Une carrière à l'international en pleine guerre froide qui lui donne l'occasion de couvrir de nombreux coups d'État aux quatre coins du globe. Et ce sont ces événements historiques que Kapuściński raconte dans les livres qui le feront connaître du grand public. Parmi ses ouvrages les plus connus, on note L'Empereur, qui traite de la chute du régime éthiopien, de Selassie, Le Chat des Chats, qui décrit la chute du dernier chat d'Iran. Kapuściński, lui, n'hésite pas d'ailleurs à décrire son travail comme du journalisme d'auteur, car ce qui l'intéresse avant tout, c'est de raconter des histoires.
Mais justement, c'est l'auteur Kapuściński dont on parle aujourd'hui. Vous l'avez dit, il a publié un grand nombre d'ouvrages traduits dans une multitude de langues, mais il aura pourtant fallu attendre 40 ans après son écriture pour que Le Sablier soit publié. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Eh bien, vous l'aurez compris, hein, avec cette brillante carrière à l'international, Kapuściński est devenu une référence dans l'analyse géopolitique des conflits et des régimes autoritaires. Mais il était aussi et surtout très critique du régime communiste polonais, pas franchement porté sur la liberté d'expression ni la liberté de la presse à l'époque. Or, de nombreux lecteurs voyaient dans ses descriptions des régimes autoritaires lointains la satire du régime de Varsovie à l'époque. La dystopie qu'il décrit s'en rapproche tant que n'importe quel lecteur averti, y compris les censeurs de l'époque, y voit immédiatement une analogie à la Pologne répressive de Jaruzelski. Alors lorsqu'il est publié pour la première fois en 1984, le livre tombe directement sous le coup de la censure d'État. Et Kapuściński finira d'ailleurs par être licencié du journal pour lequel il travaille en 1981 pour son soutien affiché au syndicat anticommuniste Solidarność.
Et alors cette publication 40 ans plus tard, comment est-elle reçue par le public? Comment est-elle reçue par la Pologne contemporaine?
Alors l'œuvre en elle-même est qualifiée de visionnaire et certains aujourd'hui la disent même prophétique, car l'auteur y développe une réflexion très avant-gardiste sur les principes démocratiques et le progrès social. Mais en ce qui concerne l'édition, le quotidien de référence polonais Gazeta Wyborcza pointe un manque de rigueur parce que cette première édition du livre, elle ne comporte ni note de contexte ni introduction à l'œuvre de l'auteur. Or, étant donné le parcours très particulier, très singulier de cet ouvrage, une contextualisation et une historisation auraient été les bienvenues.
Et est-ce que nos auditeurs et auditrices du Book Club peuvent d'ores et déjà se procurer cet ouvrage ?
Eh bien malheureusement non, Marie, à moins de lire le polonais, car pour l'instant, aucune traduction française n'est prévue. Mais rassurez-vous, en attendant de pouvoir feuilleter le sablier dans la langue de Molière, il est possible de découvrir les autres ouvrages de Kapuscinski dans le recueil « œuvres » au pluriel, publié chez Flammarion et qui rassemble entre autres « Mes voyages avec Hérodote »,« Le chat » dont on a parlé tout à l'heure, ou encore des extraits de « La guerre du foot ».
Merci beaucoup Adrien Sarlat, on mettra toutes ces références sur la page de votre chronique Lecture sans frontières franceculture.fr. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On joue à repérer de la musique dans les textes. Quel était le rapport de Jacques Roubaud avec la musique, Jacques Jouet?
Alors, c'était plutôt son ami Pierre Luçon qui lui-même était musicien, qui devait être un peu son informateur sur la musique. Alors, il s'intéressait évidemment à propos des troubadours, aux traces musicales qui existent, hein, des canzos. Et puis, en relisant justement 31 au cube, il parle au début des sonates du rosaire de Heinrich Bieber, que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps et qui sont assez étonnantes. Mais sinon, Roubaud ne parle pas énormément dans ses textes de musique. Enfin,
on en a trouvé, Jean-François Puff.
Là encore, je nuancerai quand même, parce que une chose qui singularise aussi Jacques Roubaud par rapport à beaucoup de poètes immédiatement antérieurs, c'est que le rapport de la poésie française s'est fait essentiellement à la peinture, au moment des surréalistes ou dans l'après-guerre, le groupe de l'éphémère. Et Jacques Roubaud me semble plus justement intéressé par la musique, sans que ce soit massif dans l'œuvre, très clairement. Il y a un sonnet sur les suites pour violoncelle seule de Bach dans Signe d'appartenance. Là, il y a la musique pour orgue qui le fascinait. Et tout. Mais la dimension formelle, quoi, elle est dans la musique, elle est dans la poésie.
On termine avec un extrait de Quelque chose noir où on en a trouvé. Ce temps que nous avions au monde, fragmenté en photographie, pour une restitution future, courte au regard. Comme il fut, si court. Sinon que plein, il n'avait pas de limitation. Lumière rétrécie par la fenêtre, condensée par la pellicule, comprimée par la porte, réfractée par la glace, rétrécie par la fenêtre, and so on. Boucle d'une lumière et d'une musique. Glenn Gould, Brian Eno, Anthony Braxton. Vacillante mémoire des syllabes qui tombent d'une autre langue et vers nous. Quelque chose comme... n'ayant pas le temps. Jean-François Puff, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer Jacques Roubaud. Jacques Jouet, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour évoquer Jacques Roubaud. C'était un plaisir au son aujourd'hui. Anthony Thomasson à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Auriane Mignot. On mettra des rebonds sur la page du Book Club vers des archives, mais promenez-vous, vous aussi, dans l'application Radio France. Je l'ai fait, on trouve des archives avec ou bien la voix de Roubaud ou bien d'autres personnes parlant de son œuvre. Promenez-vous notamment du côté des nuits, il y a des merveilles.